Aujourd'hui, maman est morte.
Faites-vous quelque chose de sale, hein? Faites-vous par exemple une chose dont vos parents ne savent rien.
Faites attention à bien savoir jusqu'où vous allez trop loin.
Outrepassez-vous les règles.
Tu t'appelles Buck. C'est ça. Ça rime avec fuck. C'est bien ça.
Le canard siffleur mexicain, un programme littéraire, musical et parfois cinéphile.
Il y avait donc Brassens, Léo Ferré, Mouloudi, Moustaki, c'est mon frère.
Hi, I'm Frank Bill, author of Crimes of Southern Indiana. It's basically about survivalist. I mean, in a sense, it's about, I don't want to say lower class, but I'd say working class people. It's just people who are struggling to get by in certain times where it's like a group of people who have basically been ignored or forgotten about, in a sense, and they're getting by the only way they know how. I'd read, ended up picking up a book by Chuck Palahniuk after seeing the movie Fight Club. Read it, loved it. Pretty much read everything that he'd written after that. Guys like Bret Easton Ellis, Irvine Welsh, and later on down the road I discovered a guy named Larry Brown.
Série très noire. Frank Bill, auteur de 17 nouvelles parues chez Gallimard. Comment dire ? Oui, le noir c'est noir, mais là il s'agit de chroniques du sud de l'Indiana. Alors, il est question de délivrance un peu, on y retrouve du John Borman. Paupérisation, certes économique, mais surtout également des esprits. Et Fred Astaire nous en livre quelques passages.
Vieille rancœur. On aurait pu croire que c'était Dieu lui-même qui l'avait flingué depuis le ciel, cet enfant de salaud. Pourtant, le Seigneur n'était pour rien dans ce qui arrivait à Abel Kirby. À plat ventre par terre, il avait encore dans les oreilles l'écho des coups de feu de petit calibre qui lui avaient perforé le haut du dos, la poitrine et le ventre. Derrière ses bottes de travail, le sang traçait un chemin jusqu'à la porte moustique et récaillée de la maison, d'où il était sorti en chancelant. Il plaqua ses paumes sur le sol inégal, rassembla ses forces, tenta de redresser le buste comme s'il voulait effectuer quelques pompes, pour retomber aussitôt, les narines assaillies par l'odeur de la cendre et de la poussière, tandis qu'il regardait de côté, l'esprit envahi par le souvenir de tout le mal qu'il avait fait dans sa vie. Il avait mis le feu à la maison de son père pour toucher l'argent de l'assurance. Buté le chien d'Esther McCullum sous le nez de ce dernier pour une sombre histoire de dette. Grimpé sur la fille de Needle Galloway, 13 ans à l'époque. Défoncé le crâne de Nelson Anderson avec un marteau à la Leavenworth Tavern parce que cet enfoiré l'avait ouvertement accusé d'avoir balancé Willie Dodson sur un deal intercompté alors qu'il avait agi pour le compte du shérif. Et aujourd'hui, il venait de vendre sa petite fille Audrey. La Piotte, au clan de Hill, pour qu'elle tapine. Qu'elle gagnerait. Il pourrait payer les médicaments anticancéreux de sa femme Joséphine. Ouais, il n'y a pas de doute, je suis qu'un enfant de salaud, pensa-t-il.
Closing your eyes, can tell, see. No, really, I don't care what they say, it's all music. No, baby, I don't care what they say, it's all music. Yeah, it's coming on. If you're gonna drown, do it the right way. Do it the right way. I don't care what they say, it's so easy. I don't care what they say, it's so.
Dans la cuisine, environnée par l'odeur de sa chère flasque qui pendait, sèche et grise comme des rideaux moisis sur une tringle rouillée, regrettant de ne pas avoir arrêté Abel tant qu'il en était encore temps. Repensant à toutes ces nuits où, allongée dans son lit, elle l'avait entendu s'extirper de sous les draps, traverser la pièce et faire grincer les gonds de la porte de la chambre occupée par leur petite fille. À ce moment où elle finissait par se lever elle aussi, respirant avec peine et grognant sous l'effort, et où, après être passée à son tour devant la chambre de la ptiote, elle découvrait Abel dans la cuisine, une bière à la main. « Je pouvais pas dormir, alors je suis venu boire un goût », disait-il invariablement en la voyant. C'est pour ça qu'elle avait caché le Ruger sous son oreiller, un pistolet calibre 22 qu'elle utilisait pour débarrasser le poulailler et le jardin de la vermine et des serpents. Elle se savait beaucoup trop faible aujourd'hui pour pouvoir lutter physiquement. Au fil des années, elle avait faim de ne pas remarquer la drôle de lueur qui éclairait les yeux d'Abel pendant les fêtes du comté.
Cette fille-là, elle ne me voit même pas. Je pense qu'elle attend le bon prince charmant. Elle joue les belles au bois dormant, elle se couche tôt. Cette fille-là me rendra fou bientôt.
Ou à l'épicerie, quand il reluquait les jeunettes, et sur tous les endroits où leur forme s'épanouissait. Il avait commencé à lorgner la ptiote alors qu'elle préparait le dîner, faisait la vaisselle, donnait à manger aux poules et ramassait des œufs.
Cette fille-là a des airs de princesse. Et tu m'as vu, moi, les deux mains dans la graisse. Je n'ai pas de grand cheval blanc, juste une moto. Cette fille-là sera dessus bientôt. Des gouttes de pâte de crapaud. Un œuf et trois plumes de corbeau. Oh, oh. Quelques racines de mandragore.
Lorsque Joe l'avait questionné sur ses regards, il avait répondu : Bah, c'est qu'elle s'est vite transformée en vraie petite femme, la bougresse. Je me souviens d'un temps où t'étais aussi mignonne. Son intonation, autant que la comparaison avec la chair de sa chair, avait fait naître une boule de dégoût dans les tripes de Joe. Là-dessus, les rumeurs au sujet de la fille Galloway lui étaient revenues aux oreilles. Redoutant la réponse, elle avait interrogé Abel au sujet de la gamine. Il n'avait rien nié. Au contraire, il avait même réaffirmé ses motivations. « Qu'est-ce que tu crois, mon Dieu? Une jeunesse comme ça, un homme comme moi, c'est elle qui m'a fait de l'œil. Moi, je lui ai juste offert ce qu'elle réclamait. Un homme, ça a des besoins que tu peux pas satisfaire dans ton état. » 35 ans de mariage et les mots avaient tranché dans le vif, encore plus douloureux que le cancer. Le temps avait transformé Abel en une espèce de maladie que Joséphine avait ignorée beaucoup trop longtemps et ne savait comment traiter. Quelques minutes plus tôt, il était entré dans la chambre, un sourire diabolique éclairant son visage au-dessus de son cou de poulet. Il avait posé sur le lit une petite sacoche brune remplie de billets froissés. Dans ses yeux brillait une lueur trouble. En principe, leur petite fille était partie avec lui faire une course en ville. Alors Joe avait demandé « Où est la petite ?» Devant elle, Abel avait frotté ses paumes l'une contre l'autre, un filet de sueur dégoulinant de son front. Il s'était humecté les lèvres, l'avait regardé droit dans le dire « Écoute Joe, toi et moi, on a bavé ces derniers temps, entre les médocs à payer et les garçons qui ont filé. Faut que la petite mette aussi sa part dans le bocal à billets. Alors, je lui fourgue à Tridon et à Darnell pour qu'elle nous donne un coup de main. Quand elle aura gagné suffisamment de fric, elle pourra revenir. Je voyais pas comment on pourrait s'en sortir autrement. » Les yeux chassieux de Joséphine s'étaient dessillés. Elle avait sorti le regard, pressé la détente et logé une balle dans le ventre d'Abel. J'aurais dû agir beaucoup plus tôt, avait-elle pensé, pour protéger les miens. Son esprit s'était interrogé sur les conséquences durant une fraction de seconde, mais trop tard. Ce qui arrivait aujourd'hui était sa faute, autant que celle d'Abel, avait-elle compris. Le souffle court, elle avait soulevé du lit ses vieux os, arrachant des protestations à ses articulations et déclenchant un afflux d'acide lactique dans ses muscles. Et lancé. Moi aussi, il y a d'autres façons de s'en sortir, sauf que j'ai attendu trop longtemps qu'on me montre la voie. Abel avait bien essayé de rester debout, mais sous le choc, il avait heurté le plancher de la chambre. Il venait de se redresser tant bien que mal quand Joséphine lui avait encore tiré dans l'épaule, puis dans la poitrine. Il s'était écroulé sur la commode en hurlant. « Putain de vieille peau !» Une main plaquée sur la poche de chaleur humide au niveau de son ventre. Il avait tâtonné de l'autre jusqu'à la pièce voisine. Les pieds de Joséphine avaient trouvé d'eux-mêmes ses bottes délacées. Négligeant le fauteuil roulant pliable poussé dans un coin, elle avait traîné sa bouteille d'oxygène jusqu'au salon, où Abel s'était affaissé contre un mur. Elle avait visé la poitrine, la main aussi incertaine que sa vision. Pressé la détente. « Merde !» avait-il piaillé. Un nouveau rond rouge était apparu sur son t-shirt blanc, tandis qu'il se laissait guider par la cloison vers une autre pièce. Elle s'appuyait à présent sur le support argenté à roulette de la bouteille d'oxygène. Un tube transparent en partait, qui se scindait sous son nez pour entrer dans chacune de ses narines, et elle inspira, en se demandant comment Abel avait pu vendre comme du bétail leur petite fille de 14 ans au clan de Hill. Comment il avait pu vendre la petite à des individus comme ces deux assassins, Trident et Darnell Craze. Abel et elle venaient de perdre leurs deux fils, Dodo et Hull, le père de la petite. Jamais à court de mauvaises idées, ils avaient pris la poudre d'escampette tous les deux, quitté la maison un soir tard, des mois plus tôt, pour ne jamais revenir, négligeant toute responsabilité. Les laissant, Abel et elle élevaient Audrey, qui allait désormais être obligé d'offrir à des rebuts de l'humanité son corps d'adolescente aux courbes de femme contre une poignée de billets crasseux. Joséphine plissa ses yeux jaunâtres, profondément enfoncés dans leurs orbites, pour les forcer à... serra la poignée du Rugger dans sa main droite, convaincue au plus profond d'elle-même qu'elle devait franchir cette satanée porte et détruire définitivement la maladie d'Abel avant que celle-ci ne la détruise. L'une des balles rebondit à l'intérieur d'Abel jusqu'à lui sectionner un nerf, et ses jambes perdirent leur allant. Il entendit la porte moustiquaire grincer derrière lui. Des poumons cherchaient désespérément à aspirer de l'air, des roulettes et des bottes raclaient le sol. Et la voix de Joséphine. « J'espère que la terre de notre Seigneur t'apporte tout le réconfort dont tu as besoin, parce que tu n'en auras pas d'autre. » Alors qu'il tentait de contracter les muscles de ses jambes, Abel prit conscience du froid qui lui raidissait le corps, serra les dents, scia pour chasser les armes de ses yeux. « Merde, Joe, attends, on en a besoin de ce fric. Quand on l'aura gagné, on la reprendra. » Les sons accompagnant les mouvements de Joséphine se firent plus aigus, jusqu'à ce que ses paroles résonnent juste au-dessus de lui. « La reprendre ? C'est notre petite fille, un être humain, contrairement à toi. » Abel enfonça ses doigts dans le sol, tordit le cou et, quand il distingua la silhouette de sa femme, supplia. « Aide-moi, Joe. Je ne s'en mets plus, mais de minuscules éclairs de feu jaillirent autour de ce qu'il pensait être Joséphine. Ses lèvres remuèrent, mais les mots ne trouvèrent pas d'écho dans son esprit. Les crampes qui lui paralysaient le dos progressèrent jusqu'à sa nuque, tout comme l'obscurité qui annihilait ses sensations. Immobile à côté de lui, le pistolet vide dans une main, des douilles éparpillées autour d'elle. Elle avait beau ne plus le voir bouger, savoir qu'il était mort et qu'elle avait mis un terme à cette maladie dont elle n'avait pas tenu compte pendant si longtemps, elle ignorait comment ramener la petite dans son foyer.
tout de suite maintenant Le Masque Policier, qu'on peut écouter sur telerama.fr, se penche sur le phénomène Frank Bill. Écoutez.
Alors on va passer à un autre roman. Je ne sais pas si celui-là a fasciné Christine Ferniaud. On va voir, c'est justement le suspense de cette émission. Alors là, on est dans un tout autre univers. C'est un Américain qui s'appelle Frank Bill. Alors lui aussi, c'est une découverte. On ne le connaissait pas. D'ailleurs, je crois que c'est son premier livre qui vient d'être traduit en français. C'est en fait un recueil de nouvelles. Le titre français, c'est « Chienne de vie, chronique du sud de l'Indiana ». C'est publié en série noire, donc chez Gallimard. Et c'est traduit de l'américain par Isabelle Maillet. Alors, Frank Bill, donc, c'est son premier livre, c'est un recueil de nouvelles. D'après ce que je sais, il est en train d'écrire son premier roman, donc je suis d'ailleurs très curieux de voir ce que ça donnera. 17 nouvelles, mais qui d'une certaine manière constituent un ensemble parce qu'elles sont liées de plusieurs manières. D'abord par le lieu, tout se passe dans le sud de l'Indiana, qui est un état du Midwest très rural. Lié par les thèmes, la violence, la misère économique, intellectuelle, morale des personnages, et puis par certains des personnages eux-mêmes que l'on retrouve d'une nouvelle à l'autre, à condition bien sûr qu'il ne se soit pas fait tuer, et ça c'est très très rare puisque dans chaque nouvelle il en tombe quand même facilement deux ou trois. Alors ça décrit un pays, le sud de l'Indiana, très paupérisé, dévasté, abandonné des dieux. C'est en fait un monde qui a perdu ce qui faisait peut-être sa force, sa culture, son lien, cette culture rurale, la chasse, la pêche, les paysages, etc. Le lien social s'est complètement désagrégé. C'est un pays où règne en fait la loi du plus fort, chacun cherchant à satisfaire ses pulsions. Il y a aussi très fortement le poids des guerres du Vietnam, d'Irak, d'Afghanistan, avec le retour d'hommes qui ont été complètement cassés, pas pris en charge après ces guerres. Bref, ça n'est pas très joyeux, c'est extrêmement violent. Alors, est-ce que ça vous a fasciné, Christine Ferniaud ?
En fait, j'aime bien, moi, les histoires de bouseux comme ça. Ça me plaît bien, les vendettas familiales, les petites filles qu'on vend pour un peu d'amphétamine. Tout ça, c'est exactement l'univers qui m'intéresse. Donc, j'ai bien aimé ces nouvelles-là. J'ai trouvé... Enfin, il y a deux choses qui m'embêtent un peu. La première nouvelle, elle n'est pas très intéressante. Donc, il vaut mieux la sauter. Et peut-être que ça aurait été bien de la déplacer pour qu'on puisse entrer tout de suite dans l'univers de Frank Bill. Et puis, il y a aussi une chose et qui est totalement indépendante de la qualité de Frank Bill et de Chienne de vie, c'est que, quelque temps auparavant, on a lu Donald Ray Pollock. Oui.
Qui est, a écrit des lignes absolument dithyrambiques sur ce recueil de nouvelles de Frank Bill.
Et voilà, et Donald Ray Pollock, il est toujours, moi je l'ai toujours en tête, j'ai pensé à Christophe Foot aussi, qu'on a pu lire, à des auteurs comme ça, Larry Brown. Et du coup, Frank Bill, eh bien, c'est un bon recueil de nouvelles, mais j'ai toujours en tête ceux qui ont précédé, qui pour moi me paraissent plus importants que celui-là. Et du coup, ça n'a pas gâché mon plaisir, puis le mot plaisir en plus, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment le mot qui convient, mais j'ai toujours eu en tête ce que j'avais lu il n'y a pas longtemps avec Donald Ray Pollock et qui me paraissait poétiquement au-dessus, l'écriture plus forte. Là, il y a une surenchère qui paraît un peu... on va voir ce qu'il va donner après, mais... on a l'impression qu'il est allé un petit peu dans une école où on lui a expliqué qu'il fallait qu'il raconte ce qu'il avait vu autour de lui et qu'il n'omette rien. Alors il omet rien et il y en a vraiment beaucoup.
Âpre.
Un petit peu, ouais.
Je vais te demander un dernier effort.
Je t'en prie.
Peux-tu lire en quatrième de couverture, il y a un auteur américain, M. Pollock, qui décrit en quelques lignes le style de Frank Bill.
Bon sang, mais d'où il sort ce type-là? Il carbure à toute blinde et cogne fort, très fort, vous laissant sonner comme si vous aviez pris un coup de masse sur le crâne après avoir sifflé de l'acide de batterie.
Donc voilà, peut-être que c'est du mauvais esprit, de la mauvaise foi, mais c'est un peu... J'attendrai le suivant pour être convaincu qu'on
roman,
a
alors.
Découvert quelqu'un d'exceptionnel.
Moi, parce que je trouve quand même que c'est très très prometteur quand même. C'est-à-dire qu'il y a une énergie, il y a un sens du trait, il y a une rapidité de rythme, il y a une puissance des images très très forte qui laisse quand même augurer d'une suite certainement intéressante. C'est très bien, mais c'est beaucoup moins subtil que ouais, Donald Ray Pollock.
Il manque cette espèce de poésie noire.
Le trait est un peu appuyé, voilà. Et en fait, il joue sur la saturation. Il sature ses récits de violence. C'est hallucinant, la violence. Il y a des nouvelles, d'ailleurs. À un moment donné, on hésite entre l'effroi total et l'éclat de rire tellement c'est énorme.
C'est ça qui est un peu embêtant.
Il y a aussi beaucoup de métaphores et d'images assez répugnantes. Donc il y a comme ça ce côté un peu trop appuyé.
Il y a
appuyé.
Un plaisir de l'adjectif qui dépasse un peu le plaisir de la lecture.
Quand même que c'est quand même un auteur qu'il va falloir suivre parce que il y a quand même quelque chose. C'est pas rien quand même. Hein,
Oui, parce que après, si vous vous plongez dans Mary Higgins Clark, vous sentez que quand même vos goûts ne vont pas tout à fait dans ce sens-là.
Du coup, vos références et vos comparaisons, extrêmement
subtiles. Je suis un peu sévère avec Frank Beale, mais je vous dis, c'est cette espèce de lecture finalement proche l'une de l'autre qui font que, pour moi, certains auteurs qui ont précédé apportaient une poésie, une force noire que Frank Beale a du mal à conserver par ce goût de l'adjectif un peu pétaradant.
Voilà.
Mais j'aime bien les bouseux quand même, donc j'aime bien Frank Beale.
Le titre en fait, c'est Chienne de vie en français, mais le titre en anglais, si on traduisait littéralement, ça serait Crime du sud de l'Indiana, et je trouve que c'est plus juste. Parce que c'est vraiment ça, c'est que des crimes
sont
en fait,
des nouvelles criminelles.
Alors voilà, ce sont 17 nouvelles. Certaines se suivent, d'autres n'ont rien à voir avec les autres. On retrouve des personnages dans certaines qu'on a déjà croisés un peu plus tôt. C'est effectivement très âpre, c'est très noir. Si je devais faire une analogie, ce serait une contre-analogie pour ceux qui aiment le cinéma de Judd Apatow. Dans ces comédies où c'est de plus en plus lourd, on se dit voilà, il y a eu trois gags, le quatrième va pas sortir. Et si Judd Apatow ressort un gag encore plus lourd, alors voilà, Frank Beale fait pareil, mais dans le noir, dans le sordide, puisque là le pauvre homme, qui a été abattu par sa femme, alors qu'il avait vendu sa petite fille, avait préalablement quelques semaines plus tôt vendu ses deux fils. Contre de l'argent, et voilà, c'est assez sordide. Malgré tout, je trouve qu'il y a un style, effectivement, rentre dedans, mais il y a quelque chose. Et puis, ça décrit quand même une Amérique décérébrée, où effectivement, il y a peu de valeur. Alors, je ne sais pas si l'Amérique est ainsi, mais en tout cas, on n'a pas tellement envie d'aller se promener dans le sud de l'Indiana.
Thank you. n'êtes pas les esclaves martyrisés du sang.